Des fois, on se demande ce qu'on a fait pour être puni. On pensait qu'avec une thèse, ça serait bien. Puis on peut très bien que je vous demande d'en faire une deuxième. C'est pas grave. On y va. Mais voilà, ben c'est comme ça. Bon, Auguste Lefort, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais raconter. La Maxime Dorberg m'avait demandé de si je pouvais parler de des groupes juifs du Nouveau Testament. Alors, je voulais juste justifier pourquoi je parle, parce qu'en fait, je ne suis pas être spécialiste autoproclamé. Moi, aujourd'hui, je travaille plutôt en Nouveau Testament quand même, sur l'évangile selon Saint Jean, sur le rapport de Saint Jean au judaïsme. On peut dire ça comme ça. Il y a une question complexe, en fait. Il se trouve que, avant de faire ça, enfin, avant de faire une thèse, il faut faire l'équivalent d'un master. Donc, à l'époque, moi, j'imaginais que je ne ferais pas de thèse. Je m'étais dit, faisons un truc qui n'intéresse personne et amusons-nous. Et le truc qui n'intéresse personne, c'est-à-dire là où il n'y a pas de bibliographie, ou tellement peu qu'on est à peu près tranquille. Enfin, ça s'appelle le livre des Maccabées, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà lu les deux livres des Maccabées. Moi, je trouve ça délicieux, en fait. Hein, mais, évidemment, ça n'intéresse pas grand monde, et en fait, je pense que c'est un tort. Parce que, bon, c'est pas juste pour justifier ce que je raconte, mais en fait, si vous voulez comprendre quelque chose aux interlocuteurs de Jésus, tel que c'est raconté dans le Nouveau Testament, on est un peu obligé de remonter jusqu'à la crise des Maccabées, c'est-à-dire 2 siècles avant. C'est pas, moi je crois qu'enfin, on n'a pas trop le choix. J'ai ça au sens, mais c'est ça que je vais essayer de vous présenter ce soir. Enfin, tous les gens dont vous avez peut-être entendu parler, enfin, je sais pas, enfin, vous m'arrêtez hein, si je parle dans le vide, si c'est trop facile, parce que bon, je sais pas. Mais, pharisiens, sadducéens, esséniens, baptistes, ceux-là j'en parlerai pas. Enfin, ces quatre groupes viennent de la crise des Maccabées. Donc en fait, c'est quand même pas rien, en fait. La deuxième précaution que je comprenne, quand on cherche à comprendre les phénomènes, on cherche en général à les généraliser. Et c'est normal. Sinon, on comprend rien, en fait. Le problème, c'est lorsque la généralisation est outrancière et qu'elle ne rend plus compte de la réalité. En quel cas, ça marche plus. Je veux dire par là que toute phrase qui commence par « les juifs à l'époque de Jésus » a 90% de chances d'être fausse. Elle a 10% d'être exacte. Mais c'est pas beaucoup quand même, en fait. Je veux dire par là que le monde juif de l'époque de Jésus est un monde qui est complètement éclaté. En fait, prenez le monde juif contemporain, c'est pas hyper différent, en fait. Hein. Enfin, voilà, bon, moi j'ai vécu pendant un an en Terre Sainte, l'économique et l'archéologie française. C'est quand même assez drôle, parce que je me rappelle qu'un dominicain nous avait dit au début, « Bon, bah, vous verrez, assez vite, vous n'y comprendrez plus rien. » Bon, bah, c'est bien. Et le jour où vous aurez commencé en vous disant, « Ah, ça y est, je commence à comprendre quelque chose », eh bien, vous allez avoir dans la figure un fait qui vous dira, « Bah, j'ai pas encore compris. » Bah, en fait, c'est une expérience vraie, cette affaire. Au bout d'un an en Terre Sainte, je suis rentré en me disant, mais c'est quoi l'unité du judaïsme? Et il y en a une, parce que vous avez des tas de gens qui se réclament du judaïsme, et pourtant, quand vous les regardez vivre, vous ne voyez pas du tout la même chose. C'est ça un peu la question, mais ça, c'est un problème qui se pose déjà à l'époque du Nouveau Testament, et en particulier sur l'espèce de difficulté d'articulation entre, disons, la religion, la culture et la nation, ou la politique. Et ça, c'est 3 critères qui, dans le judaïsme, encore aujourd'hui, sont mélangés, en fait. Et vous aurez du mal à tout le temps les associer, alors que bah, c'est à la fois une question religieuse, bon, ça, vous savez, un peuple qui se réclame du Seigneur, c'est une question politique. C'est-à-dire, quel est le statut politique des Juifs? Est-ce que c'est une nation? Est-ce que, voilà. Et puis, c'est une question culturelle, parce que le Juif de l'époque de Jésus, il ne vit pas comme tout le monde. Enfin, il y a des petits points de marqueur. C'est peut-être les seuls points sur lesquels, éventuellement, on pourrait dire que là, on peut dire tous les juifs font ça. Et encore. Les marqueurs, je ne sais pas si vous les avez dans la tête, mais en gros. D'abord, la circoncision. Ensuite, d'une manière ou d'une autre, le respect du sabbat. Mais je dis bien d'une manière ou d'une autre. C'est ça, c'est du contemporain, mais c'est pas grave. À Jérusalem, entre autres rencontres étranges, j'ai rencontré une juive ultra-féministe, ultra-libérale. Eh bien, elle respectait le Shabbat à sa manière. Ça voulait dire que c'était le jour où elle n'ouvrait pas un livre. Et quand même, pour quelqu'un qui était en train de faire une thèse, c'est pas rien, en fait. Hein. Ça n'empêchait pas... d'aller au café boire toutes les bières qu'il fallait, mais elle ne devrait pas un livre pour le jour du Shabbat. Voilà. C'est, bon, bah, de l'époque de Jésus, il y a des questions équivalentes. Donc, circoncision, sabbat, les lois alimentaires. Qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger. Et le quatrième élément, la Pâque. La célébration de la Pâque. Je crois que le père Cazal vient d'en parler. On va recommencer. Il y a un élément que je ne mets pas, et pourtant je vais vous obliger d'en parler, c'est le temple. Parce que le temple, en fait, il est hyper compliqué. Et beaucoup plus compliqué que ce qu'on en dit parfois. Vous voyez, par exemple... Vous avez peut-être lu ou entendu parfois que tous les juifs pieux vont au temple pour les grandes fêtes. Ah ben moi je veux bien, mais essayez. Vous habitez en Irak, à Babylone, où il y a une communauté juive extrêmement importante. Est-ce que vous allez aller 3 fois dans l'année à Jérusalem pour des raisons purement religieuses, alors, vu le temps qu'il vous faut pour aller dans chaque sens? Oui, mais c'est juste une question hyper concrète. Dans les juifs de l'époque de Jésus, il y en a au moins un tiers qui habite en dehors de la Terre Sainte. Les plus pieux, peut-être, qui vont aller une fois dans leur vie au temple, pour la fête. Mais c'est le même phénomène que le chrétien qui se dirait « Je vais aller à... pour la fête de Pâques, je vais aller à Rome. » Mais il ne va pas y aller tous les ans. Il ira peut-être une fois dans sa vie s'il habite loin. Mais c'est pas... Donc, attention sur la manière dont... on considère la piété et le mouvement d'ensemble. Je prends un exemple simple. Peut-être que certains parmi vous ont entendu parler de ce personnage fascinant qu'on appelle Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie. Il y a des spécialistes ici? Non, pas de spécialistes. Attention, sinon je suis obligé de me taire. Non, mais je vous dis ça. C'est un pardon. Dans mon diocèse, il y a une paroisse qui n'est pas celle de Clamart, c'est une autre, où la proportion de normaliens est fortement élevé, anormalement élevé par rapport au nombre de habituels. C'est la paroisse de Bourg-la-Reine. Ça veut dire que le curé de Bourg-la-Reine ne peut pas ouvrir la bouche sans avoir à la fin quelqu'un qui me dit non, mais là vous êtes un petit peu trompé. Voilà. C'est pas grave. C'est pas très grave. Je reviens à mes juifs. Philon d'Alexandrie n'est jamais allé à Jérusalem. Jamais, de jamais, de jamais. Philon d'Alexandrie ne s'intéresse pas du tout au temple. Et pourtant, il prend la parole 2 fois pour défendre le temple. Dans 2 textes presque contemporains de Jésus. Le premier qui s'appelle la légation ou l'ambassade à Caius, ou Caius et Caligula. Hein. Pourquoi ? Parce que Caligula avait eu cette idée intéressante de mettre sa statue 2 fois et demi grandeur nature dans le temple. Mais ça, je suis en 38. Donc, selon la chronologie traditionnelle, 5 ans après la crucifixion. Avant la guerre juive. Voilà. Ok. Donc, et du coup, pour Philon d'Alexandrie, c'est vraiment important. Suffisamment important pour intervenir. Et dans le même temps, pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, je voudrais commencer du coup par simplement revenir sur cette question de la crise des Maccabées, parce que c'est vraiment la clé d'explication du judaïsme. Alors, Je ne sais pas trop quelles sont vos compétences en histoire du Proche-Orient. Juste pour qu'on se remette un peu dans... Enfin, qu'on se remette dans la tête. Bon. Vous devez savoir probablement que, en faisant simple, avant l'exil à Babylone, donc avant 586 avant Jésus-Christ, la vie est simple. Enfin, c'est ce que les gens disent, mais enfin, j'y étais pas. Au sens où il y a un dieu, une terre, un roi, un temple. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a peut-être une partie du judaïsme qui cherche ça en fait, hein. Un dieu, une terre, un roi, un temple. Ok, ça c'est avant l'exil. L'exil à Babylone démolit le roi, le temple. L'exil, attention, mais ça vous le savez, c'est pas c'est une minorité, hein. Jérémie donne un chiffre, 30 000 personnes, à peu près. 28 000 et des poussières. C'est pas la totalité, c'est loin d'être la totalité de la population. Ok. Deuxième grande division, le retour d'exil. Retour d'exil, donc ça c'est dans la Bible, les livres d'Esdras et de Néhémie, et le livre de Judith, et le livre d'Esther. En gros, c'est ces quatre livres qui datent du retour d'exil. On va dire ça comme ça. Le retour d'exil, ça se passe très mal, hein. Ça se passe très mal parce qu'il y a deux problèmes. Premier problème, ben oui, mais il y avait des gens, ils étaient restés. L'exil dure 2 générations. 586 à 537, disons. 2 générations, vous avez le temps de bouger. Et du coup, une frange de ceux qui étaient restés sur place ont refusé la religion modifiée de ceux qui revenaient d'exil, en disant, nous, on a la vraie religion. Ceux qui ont refusé, ils portent un nom, ça s'appelle les Samaritains. Donc ça fait partie de mes fameux groupes juifs. Alors, pour un juif, un samaritain, c'est pas un juif. Pour un samaritain, lui, il est un vrai juif. Vous voyez les problèmes d'identité. Pourquoi? Parce que le samaritain dit, moi, j'ai le Pentateuque, la Torah, dans une version un peu différente, et je la prends au pied de la lettre. Et en particulier, au pied de la lettre, et ben dans la Torah, vous pouvez aller chercher très longtemps, il n'est pas censé construire un temple à Jérusalem. Le temple, il est au sommet du mont Garizim. Le mont Garizim, bon, c'est aujourd'hui en Samarie, c'est la capitale, c'est aujourd'hui en Cisjordanie, ça porte le nom de Naplouse, c'est la même ville. Mais vous voyez, vous avez des gens qui, du coup, ont un temple, qui font leur sacrifice, qui lisent le Pentateuque dans une version légèrement différente des autres, et qui refusent tout le reste. Et qui disent, nous, on est les vrais. Enfin, j'en ai rencontré un qui m'a sorti sa généalogie pour me dire, moi, je descends de Moïse. Je veux bien, je ne veux pas contester ton affaire. Mais voyez, ces groupes-là, ils se constituent, eux, pendant le retour d'exil, et ils sont tellement différents que dans le Nouveau Testament, on n'arrête pas de vous dire que les Juifs ne veulent rien avoir avec les Samaritains. Saint Jean 4. Jésus rencontre une femme au bord d'un puits pour l'épouser. Ça que ça marche, enfin ça marche pas, mais c'est pas grave. Et cette femme était une Samaritaine. Et Saint Jean commente en disant, non mais je vous dis ça, dans la Bible, chaque fois qu'on rencontre une femme au bord d'un puits, c'est pour l'épouser. C'est tout. Saint Jean commente en disant, les Juifs ne veulent rien avoir avec les Samaritains. C'est l'autre chose, la parabole bien connue du bon samaritain. C'est pareil. On n'est pas censé... Le bon samaritain, il n'est pas censé s'arrêter. Puisque... voilà. Écoutez. Ok, donc j'ai exclu enfin un groupe. C'est plus facile. Deuxième raison pour laquelle le retour d'exil se passe mal, c'est la reconstruction du temple. Je sais pas si vous... Pour moi, c'est une question religieuse difficile. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à qu'est-ce qui fait qu'un temple est légitime ou pas? Je vais pas s'approcher de ma thèse, mais c'est pas grave. Un temple, les Juifs n'ont pas de statue. Dans le monde païen, la statue du dieu est le signe parce qu'il ne faut pas le dire plus que ça, est le signe de ce que le Dieu habite le temple. Donc un temple est légitime si Dieu habite dedans. Si j'ai pas de statut, comment je fais pour savoir si Dieu y habite ou pas? Dans le premier livre des rois, pour le premier temple, celui qui a été détruit en 586, c'est facile. Il y a un grand spectacle, la nuée rentre à l'intérieur du temple et on nous dit la gloire de Dieu est rentrée et tout le monde a vu. Donc là, on peut témoigner et du coup, on rentre pas dans le temple parce qu'il y a Dieu et il occupe déjà toute la place. C'est un système comme ça. Le problème du retour d'exil, c'est que ça marche pas. Parce que la gloire de Dieu ne rentre pas dedans. En tout cas, on ne nous le raconte pas. Pire, dans le premier temple, vous aviez des objets un peu sacrés. Par exemple, le seul truc écrit par Dieu. Vous avez déjà pensé à ça. Mais il y a une version des tables de la loi qui est écrite par le doigt de Dieu. C'est comme ça que l'Exode le raconte. Et c'est ça qui est mis dans l'arche d'alliance à l'intérieur du temple. Ah mais oui, mais à l'exil, il s'est passé quoi? Les Babyloniens, ils ont fait quoi? Ils ont pris, ils n'ont pas pris. Est-ce qu'il y a des gens qui ont caché? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas caché? Si les Babyloniens ont pris, bah, j'ai plus mon objet. Donc j'ai plus de signe de la présence de Dieu. Si, au contraire, les gens l'ont caché, est-ce qu'on va le retrouver? Deuxième livre des Maccabées. On y arrive. Chapitre, une histoire que les Juifs ignorent parce qu'ils ne lisent pas leurs écritures. Enfin, ils la considèrent pas comme écriture, mais c'est pas grave. Chapitre 1. Nous allons bientôt célébrer, je vais aller un peu plus loin, lorsque nos pères furent emmenés en Perse. Les prêtres d'alors, remplis de piété, prirent du feu de l'autel et le cachèrent secrètement dans la cavité d'un puits qui se trouvait à sec. Ce que j'ai de plus précieux, c'est je le cache. Le signe de la présence de Dieu, c'est un feu qui ne brûle pas. Ils y mirent en sécurité, de manière à ce que l'endroit demeure ignoré de tous, éviter que l'on mette la main sur Dieu. Bien des années plus tard, au moment choisi par Dieu, Néhémie, envoyé par le roi de Perse, fit rechercher ce feu par les descendants des prêtres qui l'avaient caché. Ceux-ci informèrent Néhémie qu'ils n'avaient pas trouvé du feu. Donc ils se rappellent dans quel puits à sec c'était, mais il n'y a plus de feu. En revanche, ils trouvèrent un liquide épais. Néhémie leur ordonna d'en puiser et d'en rapporter. Il est possible que ce liquide soit du pétrole, hein, mais lorsque on eut tout préparé pour les sacrifices, Néhémie ordonna aux prêtres de répandre ce liquide sur le bois et sur ce que l'on y avait déposé. Il se passait un petit peu de temps. Ça veut dire, soyons patients. Le soleil, caché par les nuages, se mit enfin à briller. Alors, un grand brasier s'alluma à la stupéfaction de tous. Mais. Ok, non, vous êtes sceptique, mais n'empêche que. Comment Néhémie commente l'affaire? Jonathan, avec Néhémie, se mirent à prier ainsi. Seigneur, Dieu, créateur de toutes choses, redoutable, fort, juste, miséricordieux, je vous passe toutes les épithètes, accepte ce sacrifice offert pour tout ton peuple Israël. Donc, pour le deuxième livre des Maccabées, le temple est un vrai temple puisque Dieu a allumé le brasier tout seul, sans que quelqu'un y ait mis le feu. Ok. Alors, mais ça reste problématique parce que tout le monde n'admet pas ce truc-là en fait. Hein. Enfin, c'est quand même une légende, bon, existe, mais voilà. Alors, le deuxième grand problème de l'époque des Maccabées, c'est que c'est la conquête d'Alexandre. Alors, pourtant, Alexandre, c'est pas un Grec. Hein. C'est un Macédonien. Donc, pour un Grec, c'est un pur barbare. Mais, il a quand même comme précepteur Aristote. Donc, c'est pas non plus... Enfin, c'est un barbare un peu civilisé. Le problème, c'est pas tellement Alexandre. C'est, si j'ose dire, ce qu'il y a dans ses valises. C'est-à-dire que la conquête d'Alexandre fait que le monde juif se retrouve confronté au monde grec. Je vais dire ça quand même parce que c'est pas la première fois que le monde juif est confronté à une culture différente. c'est pas mon sujet, mais tout l'Ancien Testament évoque cette question-là. La Genèse, en grande partie, enfin, première partie de la Genèse, de Genèse 1 à 11, c'est la discussion des mythes babyloniens. Ça veut dire qu'on est confronté à la science babylonienne. La rencontre des Perses, les Perses, ce sont ces gens qui adorent le soleil, c'est très étrange pour un juif. Eh bien, on discute pour essayer de comprendre ce qui se passe, et en même temps pour se positionner. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. C'est des choses qu'on ne connaît pas très bien, mais si un jour vous amusez, vous allez au Louvre, regardez avec attention les pierres assyriennes. Parce que les pierres assyriennes, si vous les regardez très attentivement et que vous connaissez bien l'Ancien Testament, vous direz « Oh, mais ça ressemble !» Parce que l'Ancien Testament discute les religions assyriennes, qui sont les trucs dominants. Donc, les Juifs savent faire, discuter avec des gens qui dominent. Le problème, c'est que la culture grecque, c'est un rouleau compresseur que la culture perse n'est pas. Bon, la culture assyrienne, c'est des cultures sémitiques, donc on est quand même assez proche. Les Grecs, ça n'a rien à voir. C'est un rouleau compresseur qui vous oblige à discuter dans ces catégories à lui. Et du coup, le problème qui se pose dès la conquête d'Alexandre, c'est celui de l'hellénisation des territoires conquis. Mais d'abord, du côté de l'intelligence. Donc par exemple, est-ce que je vais me mettre à parler en grec? Puisque pour être savant, il faut parler grec. Ouais. Alors, la question de linguistique, elle est importante. À l'époque, plus personne ne parlait hébreu. Très peu. Il faut qu'on parle. L'hébreu est une langue littéraire non parlée. On parle l'araméen, qui est une langue vulgaire, qui n'est pas une langue de culture, je veux dire. Et là, vous avez le grec qui débarque comme langue de culture, avec sa force. Et qui, en plus, le grec se fiche de savoir qui raconte quoi. Il nous demande d'aller directement au fait. Tout ça, c'est une force rationnelle qui a bousculé le judaïsme. Et ça vous donne, eh bien, tout un tas de livres bibliques qui sont confrontés à cette culture grecque. Je ne vous en fais pas la liste totale, je vous en donne un exemple pour le 3e siècle. C'est le livre de Ben Sirac le Sage, dit le Siracide. Le Siracide, c'est comment faire pour rester juif quand la mode est grecque.
Oui. C'est quoi la date de la conquête d'Alexandre?
La racine, j'ai pas compris la question.
La date de la conquête d'Alexandre.
331. Pour la... enfin, Alexandre le Grand, il commence en 333 et en 331, c'est fait. Donc le premier traumatisme de la conquête d'Alexandre, il est intellectuel. Comment se situer vis-à-vis des cultures grecques. Deuxième traumatisme de la conquête d'Alexandre, il est politique. Le drame de la conquête d'Alexandre, c'est qu'il meurt. Vite. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous devenez maître du monde, et en 10 ans, vous mourrez. Vous n'avez rien eu le temps d'organiser. Et en plus, vous n'avez même pas eu le temps, si j'ose dire, de faire suffisamment d'enfants pour pouvoir gérer votre truc. Donc, qu'est-ce qui se passe? 321, les généraux d'Alexandre se répartissent le gâteau. Le gâteau, eh bien, c'est peut-être la seule chose que j'aurais dû avoir, c'est une carte. La Terre Sainte, elle est au milieu du gâteau. Il y a un gâteau au sud qui s'appelle l'Égypte, et il y a un gâteau au nord qui s'appelle la Syrie. L'Égypte au sud appartient à la famille des Lajvides, vous les connaissez tous, parce que c'est Ptolémée et sa sœur femme Cléopâtre. Ils s'appellent tous Ptolémée et elles s'appellent toutes Cléopâtre. On ne peut jamais se tromper sur les noms des souverains. Et en Syrie, c'est ce qu'on appelle les Séleucides. Bouleversement politique, parce que ça veut dire qu'à partir de là, la Terre Sainte est traversée par les armées en permanence. Parce que lorsque les Grecs qui vivent en Égypte s'opposent aux Grecs qui vivent en Syrie, ils traversent la Judée. C'est tout. Donc bouleversement politique. Le bouleversement politique s'aggrave lorsque les Syriens prennent définitivement la Terre Sainte en 200 avant Jésus-Christ. Définitivement. Alors, pour les Juifs, on respire. Parce que les Égyptiens, ils avaient une fiscalité très lourde. Donc, on respire. Et les Séleucides, donc les Syriens, disent, bon bah, on allège la fiscalité, tout va bien. Le problème, c'est que les Syriens sont 10 fois plus hellénisés que les Égyptiens. Et alors là, ça se passe pas très très bien. D'où le problème des Maccabées. Alors, je vais vous lire juste pour qu'on comprenne le problème. Le tout début. Deuxième livre des Maccabées. Dans les deux livres des Maccabées, en fait, il y en a un antérieur et l'autre postérieur. Ils racontent la même histoire. Exactement la même histoire. C'est pas la suite, hein. C'est pas deux tomes du même livre, c'est deux auteurs, ça n'a rien à voir. Simplement, il y en a un qui écrit, pour autant qu'on en sache quelque chose, en 148 avant Jésus-Christ, l'autre qui écrit nécessairement en 110 avant Jésus-Christ. Donc, avec 30 ans de différence. Et le début des deux livres est assez différent pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Je vous montre ça. Le début du premier livre des Maccabées. De la descendance des généraux d'Alexandre surgit un homme de Vaurien, du péché, Antiochos Épiphane, fils d'Antiochos le Grand. À cette époque, et c'est là le verset important, je suis au verset 11 du chapitre 1, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi. Ils séduisirent beaucoup de gens en disant « Faisons alliance avec les nations qui nous entourent, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. » Ce langage parut judicieux. Ou en gros, si on reste juif, ça se passe mal. Si on devient grec, ça va bien se passer. Dans le deuxième livre des Maccabées, on a une présentation un petit peu similaire. À part, mais alors, c'est plus compliqué quand même. Mais à partir du chapitre 5. À la mort de Séleucos, à l'accès au trône d'Antiochos Épiphane, alors là, vous allez prêter attention. Jason, le frère d'Onias, Jason, nom grec, Onias, nom araméen, sémitique. Donc, il y en a un qui a choisi le camp grec, et l'autre qui n'a pas voulu choisir le camp grec, décide d'usurper la charge de grand prêtre. Ben oui, parce que pour avoir un temps, il faut avoir des prêtres. Le grand prêtre est Onias, et là, on a une usurpation, je vous passe les détails. Le roi consentit et Jason s'empara du pouvoir. Aussitôt, Jason fit adopter le mode de vie des Grecs par les Juifs. Il se fit un plaisir de fonder un gymnase et de mener l'élite des jeunes gens aux exercices du gymnase. C'est pas juste une question de sport, parce que ça veut dire mettre en place la nudité. Or, ça pose problème, parce que si vous êtes un garçon juif, ça se voit tout de suite. D'où, premier livre des Maccabées, verset 14, ils construisirent un gymnase et se recousirent des prépuces pour effacer les traces de leur circoncision. Évidemment, dit comme ça, c'est ridicule, mais quand même. L'auteur du premier livre des Maccabées commente en disant « Ils renièrent l'Alliance Sainte. » Pourtant, les gens qui adoptent le mode de vie à la grecque se considèrent comme parfaitement juifs. Vous voyez, la question de partition. Bon, si ça ne suffit pas, ils décident de transformer Jérusalem en cité hellénistique avec des citoyens exactement comme si on était à Athènes, à Milet, enfin voilà, on va vivre à la grecque. Voilà le point de départ de la crise. Antiochos IV Épiphane, le roi séleucide, estime qu'il va pouvoir en profiter pour faire deux choses. La première, obtenir de l'argent. Bon, parce qu'un roi, ça a besoin d'argent. Or, un temple, c'est une banque. Puisque c'est dans les temples que vous mettez tous les fonds de garantie. Pour une raison très simple, c'est que l'argent dans les temples, il est inviolable. Donc, c'est la meilleure assurance qui soit. Enfin, c'est pas... Mais ce que je vous décris là, c'est vrai de tous les temples païens. Hein. Tous les temples païens sont des banques. C'est pas... ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Donc, Antiochos IV, lui, décide de piller le temple de Jérusalem pour avoir l'argent. Ceci est raconté dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 3 et au chapitre 4. Ça se passe pas très très bien. Et la deuxième chose que fait Antiochos IV Épiphane, c'est en se disant, on va unifier tout ce monde-là. Parce que l'empire d'Antiochos IV Épiphane, il va, disons, de la Turquie jusqu'à la frontière, jusqu'au Gange. Bah, c'est pas rien, jusqu'au Gange, donc en Inde. Et pour le nord, bah, la Turquie, jusqu'à la Terre Sainte. Bon. Pour unifier, Antiochos IV a un instrument génial. C'est l'hellénisation des divinités locales. Bah, les Romains font pareil. Hein. C'est-à-dire, pour pouvoir unifier la religion, vous prenez le dieu local et vous dites « Oh, bah, en fait, votre dieu, c'est un peu comme le nôtre. » Par exemple, Marduk, le grand dieu des Babyloniens. Eh bien, c'est Jupiter, Zeus. Par exemple, Baal, le grand dieu des Assyriens. Eh bien, c'est pareil, c'est Zeus. Ah, mais alors, le dieu d'Israël, c'est qui? Ben, c'est Zeus. Et d'ailleurs, en plus, le grec aide, parce que Zeus, en grec, ça veut dire Dieu. Donc en fait, c'est tellement facile. Et donc, qu'est-ce que fait Antiochos IV Épiphane? Il décide de construire sur l'esplanade du temple, alors pas sa statue, mais la statue de Zeus Olympien. Ça s'appelle la profanation du temple. Cette profanation, les Hébreux appellent ça, cette statue, l'abomination de la désolation. Zeus Olympien. Ce faisant, on déclenche la guerre civile. Là, c'est là où maintenant j'arrive aux différents groupes. Parce que face à une crise de ce genre, vous vous situez comment? Vous voyez le problème en fait. Comment vous vous situez? Parce que il y a des gens qui décident de se révolter. Ceux qui se révoltent, c'est les Maccabées. Les Maccabées, c'est une famille sacerdotale qui viennent de Moudirine. Moudine, c'est 20 km de Jérusalem au grand maximum. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils décident de prendre les armes. En réaction, Antiochos IV Épiphane lance une politique de d'hellénisation forcée. On n'a plus le droit d'observer le sabbat. On n'a plus le droit d'observer les fêtes juives. Et même, il faut brûler les livres de la Torah, etc., etc. Donc, c'est quand même des choses extrêmement concrètes hein, qui s'opposent. Il faut sacrifier au Dieu. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Judas Maccabée et ses compagnons s'introduisirent furtivement dans les villages, réunissant ceux qui demeuraient fidèles au judaïsme, ils en rassemblèrent environ 6000. Ils suppliaient le Seigneur de poser son regard sur le peuple, etc. Et ils partent dans, les grottes du désert pour lancer la guérilla. Donc vous avez une première option, qui est celle des deux livres des Maccabées, qui est l'option du rejet complet de l'hellénisation, en disant, on doit devenir être juif, donc pas de grec. Ça veut dire, pas de coutume grecque, pas de roi grec non plus. Donc la guerre est en même temps une guerre politique, hein. C'est pas juste une guerre religieuse. Hein. C'est, il faut qu'on chasse les Grecs de chez nous. Ça marche pas trop mal, hein. Encore que. Enfin, non, pas vraiment. Mais un peu si, quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que la guerre est un succès puisqu'ils reconquièrent Jérusalem. Mais pas en entier. Et puis qu'ils arrivent à avoir... Bon, c'est un petit détail, mais vous comprendrez mieux certains détails du Nouveau Testament comme ça. Le centre de rassemblement, le lieu de rassemblement des Maccabées a un nom très connu. Ça s'appelle Emmaüs. Parce que la bataille d'Emmaüs est la première victoire des Maccabées contre les Grecs. Donc pensez-y quand vous entendez les pèlerins dits d'Emmaüs qui se rendent à Emmaüs. Vous vous rendez compte? On est déçus, on pensait que lui, il allait restaurer la royauté en Israël. Ça n'a pas marché. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est simple. On va au Woodstock des Maccabées, c'est-à-dire à Emmaüs. On se rend à l'endroit... Mais, je dis ça comme ça parce que tous les ans, il y avait le festival des Maccabées, si vous voulez, qui se fait en, dans cette manière de rappeler qu'on est capable d'emporter les choses par la lutte armée. Dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui traverse régulièrement cette question-là, disant est-ce qu'on doit prendre les armes ? Il porte un nom. Alors, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que le Nouveau Testament, c'est compliqué parce que c'est des gens qui écrivent en 80 pour me parler de faits qui ont lieu en 40. Donc, pour un historien, c'est très compliqué. Quand au milieu, vous avez la guerre romaine qui détruit le temple à Jérusalem. Donc, au milieu, vous avez un truc qui bouscule complètement les manières de lire les choses. Donc, mais bon. Disons qu'il y a une filiation nette quand même entre la position des Maccabées et la position des Zélotes. Qui est de dire la lutte armée, le rejet de toute compromission, et on s'en sortira quand on aura un chef politique juif bien de chez nous, si je puis dire. Ok, ça, c'est facile. Ça, c'est les deux livres des Maccabées et c'est le livre de Daniel. Complètement contemporain de cette affaire. Daniel, c'est une fiction. Hein. Il prétend qu'il parle des Perses, mais en fait, il parle des Grecs. Et il sait ce qu'il fait. Ok. Vous avez une deuxième option dans l'autre sens. L'acceptation maximale. On accepte tout ce qu'on peut, comme on peut, tout en restant juif. Ça veut dire, je vais dire en grec la totalité du culte juif. Ça s'appelle la sagesse de Salomon à Alexandrie d'Égypte. C'est un livre de l'Ancien Testament et qui utilise les catégories grecques pour parler des catégories juives. Ce livre est extrêmement important parce qu'il est la matrice du christianisme. Parce que, vous voyez, parfois on entend, je ne sais pas très bien pourquoi, que c'est... Paul ou Constantin qui a hellénisé la foi. C'est complètement stupide. Les juifs sont complètement hellénisés déjà. Donc c'est déjà fait en fait. À Jérusalem, on parle grec. On n'est pas dans un monde. C'est pas. Ouais, déjà fait. L'acceptation minimale, celle-ci racide, c'est dire bon, j'accepte un peu mais pas trop. Et puis, il y a deux versions qui ne sont pas accueillis dans la Bible. Une option qui est l'inculturation complète. C'est quand même la sagesse de Salomon, elle met des bornes. Mais l'inculturation complète, elle existe. Enfin, ce sont les gens qui vont accepter la vie à la grecque, et qu'on va trouver. Et la deuxième chose qui n'est pas accueillie dans la Bible, et là on a beaucoup de textes témoins, c'est l'ésotérisme. Oh, des trucs... Vous avez un volume de la Pléiade qui s'appelle « Écrits intertestamentaires ». Vous avez tout un tas de livres passionnants, l'Apocalypse d'Enoch, l'Apocalypse de Baruch, l'Apocalypse d'Élie, il n'y a pas que des apocalypses, il y a d'autres choses. C'est de l'ésotérisme. En gros, c'est de dire « Le monde actuel est épouvantable, donc on va vivre le refuge dans un monde parallèle ». Comme ça, là-bas, on sera tranquille. C'est le principe de l'ésotérisme. Ce n'est pas accueilli dans la Bible, ni juive, ni chrétienne, précisément parce que le juif, comme le chrétien, cherche à unir les mondes. Donc, la fuite, ça ne marche pas. Ok. La crise des Maccabées entraîne un deuxième problème grave, qui est du coup le problème du temple. Donc, je vous l'ai dit, 167, Antiochos IV, profane le temple, 164, les Maccabées reconquièrent le temple. Ok. Et alors c'est là qu'il y a un trou. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un temple. Il faut un prêtre. Or, normalement, le prêtre, il est de la famille d'Onias. Et les Maccabées font une opération un peu étonnante. En 153 avant Jésus-Christ, je vous ferai confiance pour la date, mais vous pouvez la calculer à partir du deuxième livre des Maccabées assez facilement. On peut la calculer à partir du deuxième livre des Maccabées. En 153 avant Jésus-Christ, les Maccabées expulsent le grand prêtre légitime du temple. Pourquoi ? Pas parce que celui-là, c'est ça qui est bizarre, c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas tout à fait gagné. Le grand prêtre Onias ne veut pas s'héléniser du tout. Or, les Maccabées finissent par s'héléniser. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. C'est qu'ils ne sont plus les tenants de la lutte armée. On les appelle des Asmonéens. Les Asmonéens, ce sont des gens qui sont complètement hellénisés. Ils construisent des villas hellénistiques. Ils construisent des palais en faisant aussi bien que les palais des Séleucides, ou de Ptolémée et de compagnie. C'est pas, je dis ça, si vous allez à Jéricho, c'est pas une destination, pourtant c'est un lieu de villégiature tout à fait beau, mais si, Jéricho, c'est la... Enfin, c'est encore des trucs du Nouveau Testament, mais quand le fameux qui est dépouillé par les bandits, là, qui descend sur à Jéricho, vous avez jamais... Enfin, il faut que vous pensiez que c'est la route des vacances, en fait, hein. Parce que Jéricho, c'est la station balnéaire. Et que quand vous êtes en hiver, à Jérusalem, il fait 8 degrés, à Jéricho, il en fait 25. Et puis les fraises sont à maturité au mois de janvier. Enfin, c'est extrêmement agréable. Voilà. Bon, ben, à Jéricho, vous avez un palais de la reine Cléopâtre. 3 palais des Asmonéens. 1 palais du roi Antiochos. Vous voyez, pour moi, Jéricho, c'est Biarritz. Enfin, c'est pas très différent dans le genre. Enfin, voilà. Bon, en changeant ce qu'il faut, quoi. Quand même. Du coup, les Maccabées, ou Asmonéens, achètent aux Séleucides la charge de grand prêtre. Alors, quand vous achetez quelque chose à quelqu'un, vous reconnaissez que finalement, il est comme vous êtes quand même un peu supérieur. Donc, c'est le moment où les Maccabées abandonnent la lutte armée et deviennent des rouages d'un pouvoir politique. Pourquoi ça joue pour le temple? Eh bien, oui, mais alors, est-ce que les prêtres de Modine sont des grands prêtres légitimes? Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est à cause de cette question-là, massivement, que vous pouvez faire les distinctions entre les groupes juifs. Alors, je vais maintenant faire un petit tableau de ça. Ceux qui reconnaissent le sacerdoce asmonéen portent un nom très simple. Ce sont les partisans de Sadoc. Pourquoi? Parce que Sadoc, c'est l'autre nom du grand prêtre. Et ça vous donne les Sadducéens. Donc les Sadducéens sont les partisans du sacerdoce asmonéen. Alors oui, c'est vraiment un problème d'abord de... Si je dis en termes, pour nous, disons d'ecclésiologie, de légitimité du sacerdoce. Donc les Sadducéens reconnaissent comme légitimes les prêtres asmonéens. C'est normal, ils en font partie. Donc les Sadducéens massivement sont à Jérusalem. Donc c'est eux qui prennent en charge le culte. Donc après, à vous de vous amuser et de vous demander si Jean-Baptiste n'est pas... Zacharie, n'est pas un Sadducéen. Si j'en crois Luc, qui l'exerce au temple, à vous de vous amuser et de vous demander si le disciple bien-aimé, disons Saint Jean, qui est l'ami, disons, de Caïphe, grand prêtre, qui a une maison à côté de chez Caïphe, n'est pas lui-même sadducéen. Vous êtes obligé, parce que ils sont voisins. Quand vous êtes à Jérusalem, c'est quand même fascinant de se rendre compte que le Cénacle est en plein milieu du quartier sacerdotal. Et le Cénacle, c'est peut-être bien la maison de Jean. Bon, ça, c'est des problèmes d'archéologie du Nouveau Testament, mais voyez, donc les Sadducéens, c'est donc l'aristocratie sacerdotale à Jérusalem, en charge du culte. Donc son problème, c'est que le culte ait lieu. Je ne sais pas si vous avez en tête dans Saint Jean, Caïphe. Après la résurrection de Lazare, il y a une réunion de crise à Jérusalem, en disant, mais pff, Lazare est ressuscité, c'est grave. Et Caïphe dit, c'est vraiment très grave. Je suis en Jean 43. C'est très grave parce que les Romains vont venir et ils vont détruire le temple. Vous voyez la préoccupation de Caïphe. La résurrection de Lazare va entraîner une agitation telle que les Romains vont venir et qu'ils vont détruire le temple. De fait, les Romains sont venus. De fait, ils ont détruit le temple. C'était pas à cause de la résurrection de Lazare, mais c'est pas grave. Mais voyez, donc les Sadducéens, le temple. ils ont en même temps très mauvaise réputation. Parce qu'ils sont corrompus. Puisque ce qui les intéresse, c'est le fonctionnement du temple. Donc, pour pouvoir faire fonctionner mon temple, il faut que j'ai de l'argent. C'est ça, mais il y a une thèse récente qui est sortie il y a 3 ans par un Lorrain qui a travaillé là-dessus, sur les causes, sur la dimension religieuse de la fiscalité. Parce que le prélever des impôts, c'est aussi une question religieuse. Parce que si la terre appartient à Dieu, personne ne peut prélever d'impôts dessus. Sauf Dieu. Et le Sadducéen dit, moi je représente le culte. Donc l'impôt, il est pour moi. Ok. Donc les Sadducéens. Deuxième groupe. Alors ceux qui n'ont pas accepté l'opération de 153 avant Jésus-Christ. Ceux qui disent, Onias, c'est le vrai. Qu'est-ce qu'il faut? Il y en a une partie qui se réfugie avec Onias IV en Égypte. Où ils font un truc très étrange, ils fondent un temple concurrent. Qui est le temple de Léontopolis, ou Héliopolis, à Memphis, en Égypte, au bord du Nil. Et ce temple fonctionne très très bien, jusque, au moins au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc il y a un petit groupe sectaire là-bas. Ceux qui n'ont pas envie de déménager en Égypte, et qui veulent rester en Terre Sainte, et qui n'acceptent pas l'opération, ils portent un nom très connu, on les appelle les Esséniens. Les Esséniens, vous avez déjà entendu parler de ces gens-là ou pas? Non? Les Esséniens sont des gens qui, E-S-S-E-N-I-E-N, ça s'écrit vraiment comme ça se prononce, ce sont des gens qui défendent le vrai sacerdoce, la vraie religion, le vrai calendrier, la vraie discipline. Tout toujours, merci. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les Esséniens, du point de vue religieux, c'est un schisme. Avec tous les éléments du schisme sectaire. Au sens où c'est « je vis avec ma liturgie en attendant des jours meilleurs ». Et en attendant les jours meilleurs, c'est lorsque les Oniades auront retrouvé le grand temple de Jérusalem. Les Esséniens sont du coup en même temps ceux qui ne veulent surtout rien avoir avec tous les autres. Parce que ça serait le risque de prendre des chemins de corruption dont on ne sortirait pas. Donc ceux-là vivent. Mais attention parce que je m'appuie sur Flavius Joseph. Alors, comme celui-là, c'est le faisceur professionnel, c'est un peu compliqué. Mais Flavius Joseph, c'est le principal historien juif. Mais il a quand même cet art d'écrire 3 ouvrages où il dit 3 trucs différents en disant qu'il a toujours dit la vérité. Moi, je suis peut-être trop cartésien, mais j'ai du mal. Flavius Joseph a été Essénien. Donc, quand il parle des Esséniens dans les antiquités juives, il sait de quoi il parle. Les Esséniens, ils sont partout. 60 villes. C'est pas un monde, vous voyez, c'est un monde réparti dans les villes, mais on vit à part. Ou ils ont un lieu, mais bon, peut-être que dans votre culture, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui leur est identifié, mais de manière partielle, qui est Qumran. Donc les manuscrits de la Mer Morte, mais qui débordent largement de la question des Esséniens. Donc c'est... Mais en fait, quand on étudie les manuscrits de Qumran, pour la moitié, c'est des trucs sur comment il faut faire quand on vit chez les Esséniens. Qui est un truc quand même assez austère. Ça, c'est le deuxième groupe. Troisième groupe, les gens qui sont mal à l'aise avec les Sadducéens, mal à l'aise avec le temple de manière générale, qui trouvent que quand même, depuis longtemps, ce temple, c'est quand même bizarre, qui n'acceptent pas trop l'histoire du pétrole qui prend feu tout seul, et qui, en revanche, disent le lieu de la présence du Seigneur est très clair, s'appelle la Torah. J'ai nommé les pharisiens. Vous voyez, tous ces groupes-là, alors les pharisiens, ils apparaissent au 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc eux, leur manière de réagir, c'est de dire, le temple, c'est un panier de crabes qu'on n'arrive pas à gérer, on peut être un bon juif grâce à la loi. Pharisien perech, ça veut dire le séparé. Eux, ils ne s'appellent pas le séparé, ils s'appellent les hassidim, c'est-à-dire les purs. Les pharisiens La Torah avant tout. Un peuple saint. Donc, ça veut dire que pour le pharisien, ce qui est important, c'est d'abord la sainteté du peuple. Pas la sainteté du temple, il s'en fiche. La sainteté du peuple. Pour assurer cette sainteté du peuple, il faut assurer la séparation. D'où les rituels de pureté. D'où les questions de tous les rites. Dans le Nouveau Testament, les pharisiens sont très importants. Parce qu'en fait, ils représentent l'élite religieuse. Ils sont les plus nombreux. C'est pas, soyez pas trop méprisants envers les pharisiens. Hein, parce que ce sont vraiment des gens, c'est remarquable, hein, c'est des gens qui cherchent à établir une vie religieuse dans un monde complexe. Et si Jésus bagarre autant contre eux, c'est précisément parce que, un, ils dominent, et deux, ils sont sérieux. Jésus, il s'intéresse pas tellement aux gens pas sérieux, en fait. Hein. En tout cas, dans les querelles religieuses. C'est pas... enfin, en tout cas... Ok. Je termine avec une dernière question. Ces groupes que je viens de vous décrire ont tous fait les frais, de la guerre juive. Donc la guerre juive, c'est 66-73. C'est un sujet complexe, mais les juifs se révoltent contre les romains pour des questions fiscales et religieuses. Les romains réagissent par une guerre difficile. Or, enfin, vous savez, les Romains, habituellement, pour gérer la Judée, ils avaient une manière très simple à faire, qui était l'exil dans ce qui était pour eux le pays le plus épouvantable, c'est-à-dire la Gaule. Vous regardez que tous les gens qui se sont mal comportés en Judée ont été exilés en Gaule. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est le pays le plus épouvantable. En fait, la Judée, la guerre est tellement difficile... Pour un Romain, passer 6 ans de guerre pour pacifier ce qui est censé être une petite révolte, c'est une humiliation. C'est une vraie humiliation. Donc ça veut dire, on fait la table rase. Et du coup, tous les groupes que je vous ai décrits se sont effondrés, disparaissent de la circulation. Bon, les Sadducéens, c'est facile, ils étaient trop liés au temple. Donc eux, le temple est détruit, ils disparaissent. Ça, c'est facile. Les Esséniens, je peux défendre le vrai sacerdoce, la vraie communauté, mais enfin, ils disparaissent complètement de la circulation pour la même raison. Les Zélotes sont tellement révolutionnaires qu'ils sont les premiers tués. Donc, les Samaritains survivent comme ils peuvent parce qu'ils sont tellement originaux. Les seuls qui survivent dans cette querelle, ce sont les pharisiens. Et pourquoi ? Alors ça, le Talmud le raconte. Enfin, dans le Talmud, disons, la Mishnah le raconte. En disant qu'ils ont fui pour essayer de sauver le judaïsme avec la concentration complète sur la loi. Bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du Talmud, mais quand on lit quelques éléments, cette période-là est bien perceptible. Ça veut dire que les pharisiens gagnent et ils fournissent les rabbins. Parce que c'est le même monde, les rabbins. Enfin, le judaïsme des rabbins, c'est ce monde de la loi. Dans le Nouveau Testament, cette question-là apparaît, eh bien, de manière massive. Mathieu, comment réagir face à la catastrophe de la destruction du judaïsme, disons, d'avant la guerre juive ? Mathieu dit... Il y a des gens qui sont tentés par la constitution d'un judaïsme rabbinique. Moi, je vous offre le judéo-christianisme. Donc en fait, Matthieu, son premier contradicteur, enfin, sa première bagarre, c'est contre le rabbinisme, le judaïsme rabbinique en train de se constituer. Et c'est pour ça que, chez Matthieu, il y a tout le temps les phrases du genre « Il s'était dit, c'était marqué ça, et bien pour l'accomplir, il s'est passé ça ». Et c'était aussi pour ça que chez Matthieu, il y a tout le temps des phrases du genre « Vous n'avez rien compris, le Messie devait souffrir. » Le Messie devait souffrir, c'est évident, c'est prévu, comme ça. Et du coup, le passage par la destruction est normal. Ça, c'est l'option Matthieu. Réaction diamétralement opposée. L'option Luc. L'option Luc, Luc c'est l'homme du compromis, hein. Il déteste les conflits, Luc. Luc, c'est celui qui dit le judaïsme et le christianisme sont en train de se séparer de manière grave, moi je vais vous montrer que si vous êtes un vrai juif, vous devenez chrétien. Vous voyez, c'est pas la même option que Matthieu. Hein. Matthieu, c'est vous devez choisir. Luc, c'est si vous devenez un vrai juif, vous devenez chrétien. Le portrait que Paul donne, que Luc donne de Paul dans les Actes des Apôtres, c'est ça. J'étais un pharisien qui avait grandi à l'école de Hillel. J'étais vraiment le meilleur des meilleurs. Plus juif, on ne pouvait pas faire mieux. Eh bien, regardez, je suis devenu chrétien. C'est de dire la continuité complète. Ok. Jean. Alors, Marc n'en parle pas parce que Marc est incompréhensible. Enfin, si un jour, enfin, non, sérieusement, si vous comprenez l'évangile de Marc, je suis heureux que vous m'enseigniez parce que vraiment je ne comprends pas l'évangile de Marc. Mais c'est pas grave. Jean. Ah, Jean Sadducéen. Peut-être. Il n'y a plus de temple. Ah, bah le vrai temple c'est Jésus. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec le seul évangile qui est construit autour du temple. Depuis Jean 1 jusqu'à Jean 21. Autour du temple. En permanence. Voilà. Bon. Je m'arrête là. J'espère, je ne sais pas si j'ai clarifié la question. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à retenir, mais... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est pas... Soyez prudents quand vous parlez de juifs. Ce sera peut-être juste ça. Oui.
Et du coup, qui sont les publicains?
Ah, oh, bah, les publicains, oui, j'en ai pas parlé. Alors, les publicains, justement, c'est ceux de l'acceptation maximale maximaliste. Alors, un publicain, il faut juste avoir une... C'est un problème d'homme. C'est pas d'abord un problème de foi, de religion, c'est un problème d'impôt. Les Romains prélèvent plusieurs impôts en Terre Sainte, des droits de douane, des, bon, l'évangéliste Matthieu en est un exemple bien connu, ou d'autres. Le problème, c'est quand vous n'êtes pas capable d'avoir une administration en bonne et due forme. Enfin, remerciez le Seigneur d'avoir des percepteurs d'impôts qui font leur travail, en fait. Hein, parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est génial. Parce que, en fait, quand il n'y a pas ça, le système qui existe, en tout cas, dans toute l'Antiquité, et en Occident, jusqu'à la Révolution française, consiste à louer la perception des impôts. Ça veut dire, je mets à ferme, donc je demande à un bonhomme de prélever les impôts à ma place, de me s'engager à me fournir une certaine somme et de s'enrichir, bah, parce que c'est son métier, comme il peut au milieu. Du coup, ça donne lieu à tout un tas de difficultés. Donc c'est pour ça que pour un pharisien, le publicain, c'est épouvantable. Parce que le publicain, c'est celui qui se commet avec l'ennemi. C'est celui qui... Ben, j'aime pas trop l'expression de collaboration parce qu'en fait, les juifs, depuis la conquête babylonienne, sont de toute façon soumis à un roi étranger. Donc, c'est pas, mais en gros, celui qui accepte de rentrer dans ce genre de choses. C'est ça, c'est compliqué. Ça marche ?
Oui, merci.
Ben alors, eux, ils disparaissent pas. Hein. Parce que les impôts continuent d'être prélevés ensuite. Bon, et ?
Alors j'aurais une question sur le livre des Maccabées, alors pas vraiment en rapport avec ce que vous avez dit, mais je crois que donc, les protestants ne reconnaissent pas le livre des Maccabées, et est-ce qu'il y a une raison particulière ?
Les protestants ont exclu... Ah, je vais prendre l'affaire dans l'autre sens. Le canon des Écritures, puisque c'est comme ça s'appelle, il est d'abord... constitué par les chrétiens. Ça veut dire que avant le christianisme, il n'y a pas de canon juif des Écritures. Les juifs ont constitué leur canon en réaction au christianisme. Donc les juifs ont exclu de leur canon les ouvrages n'étant pas écrits en hébreu. Donc ils ont exclu les Maccabées, les extraits grecs de Jérémie, les extraits grecs de Daniel, Suzanne, le Siracide, parce qu'on avait déjà perdu l'original hébraïque, et ce genre de choses. Donc ça, c'est la version juive. Du côté chrétien, en fait, on a admis, le canon chrétien a admis les textes lus à Alexandrie. Donc c'est tous les textes, notamment les Maccabées. Les protestants, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les protestants, quand ils arrivent au XVIe siècle, on est dans un moment où on a redécouvert l'origine juive du christianisme. C'est-à-dire, c'est le moment où vous avez les premières études savantes d'hébreu de la part de chrétiens. Ce genre de truc, si vous vous amusez à avoir un dictionnaire hébreu, bah, par exemple, c'est le moment où est inventé le Collège des Trois Langues à Louvain. À Louvain, donc en Belgique, le Collège des Trois Langues, c'est quoi les trois langues ? Eh bien, c'est le latin, le grec et l'hébreu. Donc ça veut dire qu'on a un mouvement comme ça. Et du coup, les protestants, de manière très étonnante, ont dit, bah, nous n'acceptons que l'écriture juive au nom de la sola scriptura. Mais ce faisant, ils ont commis un acte, en fait, pour moi, assez grave. Parce que... Enfin, la semaine de prière pour les chrétiens est terminée, mais... et pourtant... Non, mais je vous dis ça, mais pourtant, j'ai d'excellentes relations, tant avec le pasteur réformé qu'avec le pasteur évangélique de ma paroisse. Mais c'est pas... En fait, c'est un acte assez grave, parce qu'en excluant les Maccabées, ainsi que les extraits grecs de Daniel et compagnie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nient les conciles de Carthage de 397, de 419 et de 421. Donc en fait, c'est une entorse beaucoup plus grave, en fait, que simplement de dire une question de quel livre il faut lire. Ça veut dire, eh ben, il y a quelque chose des pères de l'Église que je nie. Donc c'est pour ça que eux l'ont exclu, que ne le reconnaissent pas comme écriture sainte. D'autres choses ?
Alors, parce qu'en fait, moi, ce que j'avais cru comprendre, c'était que c'était dans les Maccabées qu'on trouvait la principale justification scripturaire du purgatoire.
Ils ont exclu la sagesse de Salomon. Non, non, l'élément est d'abord un élément de théologie fondamentale. Après, faites attention quand vous parlez des protestants. Parce que ça aussi, c'est un monde varié. Non, mais je veux dire, par exemple, Luther. Luther a une catégorie que vous serez très surpris si vous lisiez Luther et de voir ce qu'il reconnaît comme texte sacré. Luther accepte l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, Saint Jean. Il met les autres évangiles au titre de littérature mélangé, parfois utile. Ça, c'est Luther. Hein. Et rejette un certain nombre d'épîtres comme étant un tissu d'ânerie complètement inutile, voire nocive. C'est Mélenchon, l'ami de Luther, qui a sauvé le reste de la Bible. Mais vous voyez, mais c'est pour ça que je dis, soyez prudents. La question, elle n'est pas d'abord dogmatique, elle est d'abord de théologie fondamentale, c'est-à-dire... En quelle langue Dieu parle-t-il ? Après, si ça nous permet de supprimer des trucs qui nous embêtent, tant mieux. Mais il ne faut pas confondre la cause et l'effet, me semble-t-il. Autre chose ? Non ? Je ne sais pas trop assommer.
Et alors seulement, de quel judaïsme était Jésus ?
Pardon ?
De quel judaïsme était Jésus ?
D'où vient-le ?
Le judaïsme était Jésus, du coup, parce qu'on a parlé des pharisiens, des publicains, mais on ne dit pas forcément de quelle obédience il est. En partie, mais voilà, je comprends. Oui, c'est
vrai que c'est... Alors, peut-être qu'il faut commencer par dire que... Jésus, très clairement, c'est pas un zélote. Je pense que ça, c'est facile, parce qu'il rejette en bloc la question de la lutte armée. Jésus, c'est pas un sadducéen. Parce qu'il est celui qui a les propos les plus durs envers le temple. Quand même, je reste fasciné par cette phrase de Jésus, détruisez ce temple, 3 jours, je le rebâtirai. Mais comment un juif peut-il accepter d'entendre un truc pareil ? Pas normal, en fait. Voilà. Ensuite, Jésus, il vient de Galilée. Alors là où ça devient difficile, c'est quel est le monde de la Galilée ? Capharnaüm, très clairement, c'est le monde pharisien le plus rigoriste. Donc, est-ce que Jésus est issu de ce monde? Bon, j'en sais rien. J'ai pas d'autre source que l'évangile. Hein. Je suis pas. Est-ce que c'est possible? Je remarque que quand même, les premiers appelés ne viennent pas de Capharnaüm, mais viennent de la ville en face. La ville en face, ça s'appelle Bethsaïde. Capharnaüm, le village de la consolation. Bethsaïde, la maison du bonheur. C'est le nom en hébreu, je ne sais pas rien. À Bethsaïde, c'est l'endroit où on bénit. En tout cas, ma source est le père Étienne Naudet. Mais ceci dit, il dit toujours le contraire de tout le monde. Mais parfois, il a des idées intéressantes. C'est que à Bethsaïde, c'est le lieu d'abord, non pas de la séparation, mais de la bénédiction. Donc Jésus, il est quand même davantage de ce côté-là que du côté de la séparation. Ensuite, il y a une question qui n'est pas résolue, qui est celle du lien entre Jésus et les mouvements baptistes. Je n'en ai pas parlé parce que les mouvements baptistes, ça encore, c'est un truc, c'est très difficile de l'approcher de manière réelle. Parce que, oui, il y a Jean-Baptiste, très clairement, ça c'est un mouvement baptiste, c'est difficile de dire autrement, mais la question difficile, c'est est-ce que Jean-Baptiste est seul ou est-ce qu'il y en a d'autres? Ça, c'est pas une question si facile que ça. En tout cas, il semble que si Jésus va de ce côté-là-bas, c'est qu'il a un lien avec le mouvement baptiste. Mais le mouvement baptiste, c'est quand même très clairement le mouvement du renouveau. Hein. C'est on a soif d'avancer et on propose une manière pour avancer. Quoi. Bon. Je suis pas sûr qu'on puisse dire beaucoup plus que ça, parce que ce qui est délicat, c'est que Jésus, on le connaît par les évangélistes. Et puis dans le même temps, il explose quand même un peu les catégories. Je me dis ça, mais par exemple, Saint Jean. Mais vous avez des phénomènes analogues en Saint Matthieu et en Saint Luc. Pas en Saint Marc. Mais enfin, justement, si, parce qu'en Saint Marc, justement, voilà, je vais faire le phénomène. Le phénomène, c'est que chez Saint Jean, ça se construit en allant de catégorie en catégorie. C'est en disant, vous, les Samaritains, vous attendez ça, et bien Jésus, il vous répond. Vous, les Juifs, vous attendez ça, et bien Jésus, il vous répond. Vous, les gens qui êtes à Cana de Galilée, vous attendez ça, Jésus vous répond. Donc l'évangile de Jean, il nous montre toujours Jésus comme étant ayant la réponse à tout, ou la catégorie qui permet de tout résoudre. Saint Marc, pour lui, Jésus est tellement exceptionnel qu'il refuse de le comparer à qui que ce soit. C'est peut-être le seul truc que je comprends chez Marc. Mais ça devient un peu apophatique, quoi. Parce que si je peux comparer à rien du tout, on ne sait plus très bien quoi dire, en fait. Voilà. Voilà. Autre chose ? Oui ?
C'est juste de revenir sur la question de Luther, ses manières, et ses préférences pour les textes. Est-ce que c'était lié à son... Est-ce que l'ordre monastique du renouveau d'où il sort, est-ce qu'ils avaient ce même projet de sélection?
Non. Ah non, pas les Augustins. Les moines Augustins, non. Ils sont... Luther... Le problème de Luther, c'est qu'il est encombré par la scolastique du XVe siècle. Il est encombré par la scolastique du XVe siècle qu'il a apprise et qui est parti dans des débats techniques tels que, mais c'est pas, il n'est pas le seul à le dire, hein, au même moment, Erasme, qui est parfaitement catholique, dit la même chose en disant on a une théologie qui ne parle plus de l'écriture. On a une théologie qui ne parle plus des pères de l'Église, non plus. Et donc Luther, lui, il appartient à ce mouvement-là. Donc quand je dis qu'il est encombré, c'est que les débats théologiques qui sont les siens sont des débats sur les textes du XVe siècle, en fait, et non pas sur les sources. Alors que dans le même temps, il y a une vraie redécouverte des sources. Donc c'est là où le monastère augustin, lui, va l'aider à retrouver les sources. Après, le choix que fait Luther, c'est que c'est en même temps un pur produit de la scolastique. Or, la force de la scolastique, c'est qu'elle est rationnelle. Quand vous êtes rationnel, Réfléchissez-y un jour à cette affaire-là. Parce que ça veut dire que vous n'avez plus d'autorité. C'est pas si facile que ça. Parce que si le point commun, mais la force de saint Thomas, c'est de dire le point commun à l'humanité, c'est la raison. C'est la raison. Et la raison, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est ce qui permet de discuter. Alors, encore que, enfin, aujourd'hui, on est dans un monde complètement irrationnel et on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à discuter. Puisque le point commun, on l'a plus. Bon. Du coup, si j'ai la raison, je peux discuter de tout. Et saint Thomas, dans la somme théologique, le fait. Hein. Enfin, quand on lit la somme théologique, c'est quand même fascinant les questions qui se posent. Hein. Des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on se pose la question, en fait. J'aime pas, un jour, amusez-vous à prendre la somme en juste son plan. La liste des questions les unes après les autres. Et vous direz, mais il se pose cette question-là aussi. Voilà. Mais parce que c'est rationnel. Et ça a une force. Luther étant le pur produit de cette éducation-là, du coup, admet de discuter tout et n'importe quoi. Y compris quels livres peuvent être admis ou ne pas être admis. Parce que ça, je ne peux le faire que si j'ai une raison. C'est pas... Donc du coup, c'est sa manière de faire dans le choix qui est fait. Après, il s'agit pour lui de trouver la pureté de l'évangile. Et le seul choix théologique qui commande son exclusion radicale de beaucoup des textes, c'est la primauté de la grâce. Or, les lettres romaines, les lettres galates et l'évangile de saint Jean sont ceux qui défendent le mieux la grâce. Mais... moi, évidemment, je réponds en disant que j'entends que la capacité de la raison, dans le même temps, justement, ça c'est l'écriture que je reçois. Tout. Après, on a tous des affinités avec des trucs. Peut-être que certains trouvent étrange que j'ai des affinités avec les Maccabées. Pourtant, j'ai pas tellement. Pour quand même quelqu'un d'assez pacifique. Mais là, je reçois tout. Si je commence à exclure des morceaux, c'est Dieu que je défigure. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, si on peut reprocher quelque chose à Luther, c'est du coup d'avoir créé un Dieu à son image. Ça s'appelle une idolâtrie. Mais cette idolâtrie, elle nous gâte tous. Hein. Je ne sais pas. C'est assez fréquent, hein, quand même. Hein. Quand quelqu'un sort un morceau de la Bible au détriment du reste, il s'est créé une magnifique idole. Hein. Parce qu'il a construit un dieu à son image. Et ce, quel que soit le genre dans lequel il est. Hein, je suppose, c'est pas... Mais c'est comme ça. C'est quand même... c'est là où l'autorité, ça sert à quelque chose, quand même. Quand même. C'est pas... Mais je dis, c'est pas... Je sais pas comment vous vivez ça, mais... le monde universitaire, qui est notamment les sciences humaines, qui est quand même une espèce de rouleau compresseur monstrueux, l'humilité... toi me faire dire, en fait, moi je cherche l'humilité. Et si je cherche l'humilité, c'est qu'il y a des choses plus grandes que moi. Tant que je ne suis pas en permanence au-dessus de la mêlée. Ou au-dessus des objets que j'étudie. Parce que je suis dedans. Bon, allez.
Merci beaucoup. Ils ont les complices.